Le cahier, chronologie et premier index.
C'est un cahier d'écolier, en fait. Dès ce cahier qui est un journal, en quelque sorte, un journal intime, avec donc la succession des dates, ça commence à l'automne, avec la succession des événements qui sont ces micro-événements, en fait, de la vie sentimentale, attendant le téléphone de R, ou une journée entière à attendre un coup de téléphone, ou bien une rencontre qui l'énerve, ou bien un moment de dispute avec l'objet de sa passion, un réveil nocturne, etc. Donc c'est vraiment les micro-événements, les fragments d'une vie sentimentale. Mais dès la troisième colonne, il y a donc des thématiques déjà qui apparaissent. Donc l'attente du téléphone, Barthes va l'appeler dépendance. Le moment où il est fatigué, il va l'appeler lassitude. Et donc ces séries déjà un petit peu thématiques vont être reprises dans les fragments et dans les figures du séminaire. Ça fait une grille de lecture, une grille qui fera qu'en fait le livre ne suivra plus une série chronologique. Et ensuite, il y a donc ce qu'il appelle les enseignes, enfin dans son séminaire les enseignes, c'est en fait les phrases importantes. Il n'y a pas que toi qui. Alors là, ce sont les phrases qui sont dites par l'amant. Et puis, à un moment, il abandonne complètement le côté théorique et ça redevient un journal complètement intime, personnel, dont les dernières pages sont arrachées. Même dans la partie la plus anecdotique, la plus journal, c'est en fait des choses finalement assez générales. C'est-à-dire que chacun peut reconnaître dans les expériences ponctuelles un opéra, passer une journée à attendre quelque chose, sa propre expérience en fait. Et puis ensuite, il y a le premier index qui montre qu'au tout début, il a déjà pensé à cette mise en forme un petit peu thématique. Donc le premier index par ordre alphabétique qui commence à abandon, puis affolement, puis aimer, anthologie, etc. Bon, ce sont des figures ou des noms qui changeront, hein. Il va petit à petit, progressivement. Mais c'est quand même extraordinaire de penser que la chronologie qui commence par un été merveilleux, une rencontre, s'oppose en fait à l'index qui lui commence déjà par l'abandon. Enfin, donc on voit qu'il y a déjà une sorte de préscience de la passion malheureuse.
Les fiches.
Dans ces manuscrits, alors c'est peut-être pas très photogénique parce que c'est des minuscules petites fiches, il y a toute une partie qui est constituée par ces fichiers de travail en fait. Ça a été les fichiers de l'étudiant, les fichiers du thésard. Il n'a jamais fait sa thèse jusqu'au bout, mais en fait, il a fait des tas de dépouillements bibliographiques, les fichiers de Michelet par exemple. Et là, c'est le travail de la fiche. Il lit Werther et il le résume. Et donc, déjà, le texte totémique de Werther, en quelque sorte, lui permet déjà de voir quelles sont les thématiques essentielles. Et elles vont se rencontrer avec les propres thématiques de sa vie personnelle. Donc il y a toute cette partie-là de travail préparatoire, en fait, à son séminaire et plus tard à l'écriture du livre.
Les manuscrits du séminaire.
C'est comme un professeur, il fait un plan. Et donc c'est assez drôle de voir ce plan, donc méthodologie et opératoire. Premièrement, quel amour? Deuxièmement, quel corpus? Troisièmement, quel discours? Quatrièmement, quel intertexte? Donc il y a un côté un petit peu de souci pédagogique et théorique. Et après, il explique ce qui ne sera pas fait et ce qui sera fait. Non pas une analyse de Werther, donc il montre que le texte important, ça va être Werther, mais relever des figures, et donc il va expliquer ce que c'est que ces figures. C'est donc une manière de thématiser et de s'éloigner, en fait, de l'aspect chronologique ou discursif d'une histoire, d'une passion amoureuse. Dès le départ, en fait, il sait à peu près où il va. Hein, Il y a l'une des leçons. Alors, la première leçon, ça va être sur le ravissement. Une des leçons importantes, c'est sur l'amour, donc. Ich liebe dich. Et ça, c'est le manuscrit donc du séminaire, hein, séminaire 1. Alors parfois, il y a un côté un petit peu théorique, par exemple avec des tableaux, donc ça apporte ces schémas, ça donne un caractère un petit peu de scientificité à l'élaboration de ces figures de l'amour. Donc la place du sujet, le langage, les concepts, le désir, le refoulé, on sent également l'importance de la grille psychanalytique. On voit donc là le manuscrit des séminaires. On va s'apercevoir que le manuscrit des cours, du livre, du texte, n'est pas si différent que ça. Alors, il y a un autre passage qui est assez émouvant. C'est à la fin de ces séminaires, il dit « Et la suite ? Que fera-t-il l'année prochaine ?» Donc, il ne sait pas s'il va continuer. Et après, il va dire ce qui est important. À partir de ces deux années de séminaire, écrire un livre. Les figures non traitées, s'ils subsistent, se retrouveront dans le livre que je souhaite écrire sur le discours amoureux. Mais, dit-il, ce livre, je ne suis pas encore sûr de pouvoir l'écrire, c'est-à-dire de trouver la pratique, le fonctionnement d'écriture, car d'un mot, c'est très difficile. Et là, c'est son essai de mise en place de tous ces fragments. Et donc, à la fin de ses 2 ans de séminaire, il a réussi à mettre ce qu'il appelait les figures, bon, ça deviendra des fragments, en ordre alphabétique. Alors, il y en a certains qui viennent de la première année de séminaire, d'autres de la seconde année de séminaire. Il y en a qui vont disparaître. En fait, on verra, d'ailleurs, en regardant le manuscrit, c'est-à-dire l'étape ultime, en fait, de l'écriture du livre, que Barthes est de ceux des écrivains qui ont tendance à réduire les choses. Il y a des écrivains comme Proust, justement, qui ne cessent d'ajouter du texte, des paroles, pour pouvoir embrasser tout l'univers de l'écriture. Barthes, au contraire, va plutôt avoir tendance à réduire, aussi bien au niveau stylistique des passages, des phrases, qu'au niveau structurel. Et à la fin de ses 2 années de séminaire, il est arrivé à 100 de figures. Et le livre n'en comportera que 80. Donc il y en a qui vont sauter. Et donc il se demande lesquels il va faire sauter, lesquels il va garder, etc. On a l'impression que l'ordre alphabétique est un ordre fixe. Mais en fait, comme il change le nom des figures, il fait ce qu'il veut. En fait, l'ordre alphabétique est en même temps un ordre qui cache le désir de Barthes de faire structurer son texte comme il l'entend. Il paraît qu'à un moment, il ne savait plus très bien comment mettre ses figures les unes, ses fragments les uns à côté des autres. Et donc, il a demandé à un ami, et l'ami a fait comme avec un jeu de cartes, il a dit, voilà, c'est complètement aléatoire. Puis finalement, bon, cet ordre complètement aléatoire n'a pas plu à Barthes, parce que finalement, lui, il pensait sans doute à un ordre plus ferme. Et derrière l'apparent ordre alphabétique, il y a quand même l'ordre auquel il tient vraiment. Si bien que ça commencera peut-être par abîme, je crois que c'est par abîme, donc évidemment c'est tout un... Et ça finira par ne pas vouloir saisir, c'est-à-dire quelque chose d'un peu taoïste qui est de renoncer par certains côtés. Et l'image, enfin la figure centrale, ça sera celle de l'amour, et c'est au milieu, je t'aime en fait. Donc il y a quand même un ordre derrière l'apparent ordre alphabétique. Mais il y a tout un travail, c'est-à-dire que le problème de travailler avec des fragments, c'est qu'il faut ensuite les monter. Donc le travail de montage va de pair avec le fait que l'écriture est fragmentaire et que le montage a de l'importance puisque c'est celui qui va donner sens au livre, au recueil.
Les manuscrits imprimés.
Ça commence donc par l'abîme. Alors il y a des pages qui parfois... Ah, voilà. En fait, la première page de chaque fragment, c'est ça, c'est le titre. Et puis ensuite, le fragment, la figure, en fait. Alors là, c'est la fin, c'est la dernière figure qui est encore la figure 100 parce qu'il n'a pas encore renoncé à 20 des figures. Ça sera au niveau de la dactylographie, donc une étape ultérieure. Pour l'instant, il y a 100 figures. Et donc la dernière, c'est ne pas vouloir saisir. Il explique ce que c'est que vouloir saisir, donc l'appropriation. Et au contraire, le désir d'y renoncer. Et alors c'est assez joli parce qu'il y a des petites fiches à l'intérieur même du manuscrit, par exemple sur le Tao.
Vous pouvez lire ?
Oui, Tao Te King. Produire et faire croître, produire sans s'approprier, agir sans rien attendre, guider sans contraindre, c'est la vertu suprême. Et donc, il a écrit cette dernière figure à Urte, qui était donc la maison de vacances près de Bayonne, l'été 76, 25 juillet 76.
La dactylographie.
Il y a vraiment le souci de réduire, de ne pas faire double emploi peut-être avec d'autres choses. Mais là déjà, il y a les notes de bas de page, les références qui ont pris forme. Donc déjà, le livre commence à apparaître sous sa forme définitive. Là, c'est donc la table des matières beaucoup plus développée. Et puis, à la fin, il y a une postface qui était une sorte de postface explicative sur laquelle il avait beaucoup travaillé et qu'il va supprimer complètement comme pour délester d'un poids trop lourd, en fait, trop pesant, trop érudit, trop... un livre dont il veut garder la légèreté un peu tragique. Il explique donc le fait que c'est le discours amoureux, le discours que tient le sujet amoureux, le principe des figures, le principe de leur ordre. Les figures sont des cases plus ou moins bien remplies. Chacun peut apporter à la topique ainsi préparée les expansions ou les corrections de son propre discours. Donc c'est le livre qu'il lance finalement vers les lecteurs qui peuvent y ajouter ce qu'ils veulent. Et puis il y a cette fameuse phrase qui est la phrase qui commence finalement le livre. Donc c'est un amoureux qui parle et qui dit.